Vidocq, Mémoire, chapitre 38. Lorsqu'un individu passablement organisé rapporte toutes ses observations à un objet unique, rarement dans la spécialité à laquelle cet objet appartient, il ne se crée pas cette sorte de compétence qui résulte de l'habileté. Et c'est là toute l'histoire de ma grande aptitude à découvrir les voleurs. Dès que je fus agent secret, je n'eus plus qu'une seule pensée, et tous mes efforts tendirent à réduire autant que possible à l'inaction les misérables qui, voulant méconnaître les ressources du travail, ne cherchent leur subsistance que dans les atteintes plus ou moins criminelles aux droits de la propriété. Oh, je ne me fis point illusion sur le genre de succès que j'ambitionnais, mais je n'avais pas la folle prétention de croire que je parviendrais à extirper le vol, mais en faisant aux voleurs une guerre à outrance, j'espérais le rendre moins fréquent. J'ose dire que le bonheur de mes débuts surpassa mon attente et celle de M. Henri. À mon gré, ma réputation grandit même avec beaucoup trop de rapidité, car la réputation trahissait le mystère de mon emploi, et du moment que j'étais connu, il fallait que je renonçasse à servir la police, ou que je la servisse ostensiblement. Dès lors, ma tâche devenait bien plus difficile. Cependant, les obstacles ne l'effrayèrent pas. Et comme je ne manquais pas de zèle ni de dévouement, je pensais qu'il me serait encore possible de ne pas décevoir ni déchoir de la bonne opinion que l'opinion et l'autorité avaient conçue de moi. Désormais, il n'y avait plus moyen de feindre avec les malfaiteurs. Le masque tombé, à leurs yeux, je devenais un mouchard. Et rien de plus. Toutefois, j'étais un mouchard en meilleure situation que la plupart de mes confrères, et lorsque je ne pouvais pas faire autrement que de me mettre en évidence, le temps de ma mission secrète devait me profiter encore, soit par des relations que j'avais conservées, soit par l'ample provision de signalements et de renseignements de toute espèce que j'avais classé dans ma mémoire. J'avais pu alors, à l'exemple de certains rois de Portugal, mais plus sûrement que lui, juger les gens sur la mine et désigner aux sbires les êtres dangereux dont il convenait de purger la société. L'arbitraire dont la police était pourvue à cette époque et la facilité des détentions administratives qui faisaient sa puissance me laissaient une prodigieuse latitude pour exercer mon savoir physiognomonique appuyé de notions positives. Mais il me semblait que, dans l'intérêt public, il est bon d'agir avec un peu moins de légèreté. Certes, rien ne m'eût été aisé que d'encombrer les prisons, les voleurs, et l'on qualifiait ainsi quiconque avait été mis en jugement pour un fait contraire à la probité. Les voleurs n'ignoraient pas que leur sort était entre les mains du premier comme du dernier agent, et que pour les faire renfermer définitivement à Bicêtre, il suffisait d'un rapport vrai ou faux. Ceux surtout qui avaient déjà été repris de justice étaient les plus exposés à subir les conséquences de cette sorte de dénonciation qu'on ne prenait même pas la peine de contrôler. Il y avait en outre, dans la capitale, une foule d'individus mal notés ou mal famés, à tort ou à raison, qui n'étaient pas traités avec plus de témérissement, ménagement. Ce mode de répression avait des inconvénients graves, puisqu'il pouvait frapper l'innocent comme le coupable, celui qui était aimé et comme celui qui se montrait incorrigible. Certes, quand une fête ou une solennité quelconque devait amener à Paris un grand concours d'étrangers, pour débarrasser le pavé, il était fort commode de faire ce que l'on appelait une rafle. Mais la circonstance passée, il fallait remettre en liberté tous les détenus, contre lesquels il ne s'élevait que des présomptions. Et les associations pour le crime sortaient toutes formées par le moyen même que l'on employait pour les dissoudre. Tel qui, en s'isolant de sa vie antérieure, était rentré dans les voies honnêtes, se trouvait forcément rendu à des habitudes vicieuses et reprenait malgré lui ses anciennes fréquentations. Tel autre, réputé mauvais sujet, était à la veille de changer de conduite et jeté parmi les brigands, confondu avec eux, il était perdu sans retour. Le système suivi était donc des plus déplorables. J'en imaginais un autre qui consistait non à sévir contre les suspects, mais à faire prendre en flagrant délit ceux qui étaient justement suspectés. À cet effet, je classais les voleurs d'après le genre que chacun d'eux affectionnait plus particulièrement. Et dans chaque catégorie, j'eus besoin de me ménager des intelligences avant d'être instruit de ce qui se passait. De façon qu'il ne se commettait pas un vol que je n'en eusse informé et que je m'en fît connaître les principaux acteurs. Assez ordinairement, mes espions, hommes ou femmes, car j'en avais de l'un et de l'autre sexe, avaient participé au crime. Je le savais, mais dans la persuasion où j'étais, qu'il ne tarderait pas à m'être livré à leur tour par quelques autres faux frères qui les dénonceraient dans la dénonciation, je consentais à les laisser provisoirement derrière le rideau. Cette tolérance était de telle nature que la justice n'y perdait rien. Dénoncés ou dénonciateurs, tous arrivaient au même but, le bagne. Il n'y avait d'impunité pour personne. Sans doute, il me répugnait de recourir à de tels auxiliaires, et surtout de me faire sur leur compte lorsque j'étais convaincu de leur culpabilité, mais la sûreté de Paris l'emportait sur ces considérations qui n'eussent été que morales. « Si je parle, me disais-je, quand j'avais affaire à un indicateur de cette espèce, je le ferais condamner un coquin, mais si je l'épargne aujourd'hui, 50 de ces affidés qu'il est prêt à nous livrer m'ont échappé à la vindicte des lois. » Et ce calcul me prescrivait une transaction qui devait aussi longtemps durer qu'elle était utile à la société. Entre les voleurs et moi, les hostilités n'en étaient pas moins permanentes. Seulement, je souffrais que l'ennemi parlementait et j'accordais tacitement de sauvegarder et de sauve-conduit et des trêves qui expiaient d'elles-mêmes à la première infraction. Le faux frère, devenant victime d'un autre faux frère, je n'avais plus la puissance de m'interposer entre le délit et la répression, et le délinquant perfide succombait, trahi par un délinquant non moins perfide que lui. Ainsi, je faisais servir les voleurs à la destruction des voleurs. C'était là ma méthode. Elle était excellente. Pour ne pas en douter, il suffira de savoir qu'en moins de 7 années, j'ai mis sous la main de la justice plus de 4 000 malfaiteurs. Des classes entières de voleurs étaient faites aux abus et de ce nombre était celle des routeliers. Les routiers Ce sont ceux qui dérobent les chargements sur les voitures. J'avais à cœur de les réduire entièrement. Je tentais l'entreprise, mais elle faillit me devenir funeste. Je n'ai jamais oublié les propos de M. Henry à cette occasion. Oh, ce n'est pas tout de bien faire. Il faut encore prouver qu'on a bien fait. Deux des plus intrépides rouletiers, les nommés Gosnet et Doré, effrayés de mes efforts pour anéantir leur industrie, prirent tout à coup le parti de se dévouer à la police. Et en très peu de temps, ils me procurèrent l'arrestation de bon nombre de leurs camarades qui furent tous condamnés. Ils paraissaient zélés et je devais à leur indication quelques découvertes de la plus haute importance, et notamment celles de plusieurs receleurs, d'autant plus dangereux que dans le commerce ils jouissaient d'une grande réputation de probité. Après les services de cette nature, me sembla que l'on pouvait compter sur eux. Je sollicitai donc leur admission en qualité d'agent secret avec un traitement de 150 francs par mois. Oh, ils ne souhaitaient rien de plus, disait-il. C'était à des 150 francs que se bornait leur ambition. Je le croyais du moins. Et comme je voyais en eux mes futurs collègues, je leur témoignais une confiance presque sans borne. On va voir comment ils la justifièrent. Depuis quelques mois, deux ou trois rouletiers les plus adroits étaient arrivés à Paris où ils ne s'endormaient pas. Les déclarations pleuvaient à la préfecture. Ils faisaient des coups d'une hardiesse inconcevable. Il était d'autant plus difficile de les prendre sur le fait qu'ils ne sortaient que la nuit et que, dans leurs expéditions sur les routes qui avoisinent la capitale, ils étaient toujours armés jusqu'aux dents. La capture de tels brigands ne pouvait que me faire honneur. Et pour l'effectuer, j'étais prêt à affronter tous les périls. Lorsqu'un jour, Gosnet, avec qui je m'étais souvent entretenu à ce sujet, me dit « Écoute, Jules, si tu veux que nous ayons marron, meilleur Victor Marquet, son frère, il n'y a qu'un moyen, c'est de venir coucher chez nous. » Alors nous serons plus à même de sortir aux heures convenables. » Je devais croire que Gosnet était de bonne foi. Je consentis à aller m'installer momentanément dans le logement qu'il occupait avec Doré. Et bientôt, nous commençâmes ensemble des explorations nocturnes sur les routes que fréquentaient assez habituellement Meyer et les deux Marquet. Nous y rencontrâmes plusieurs fois, mais ne voulant les saisir qu'en action, ou tout au moins porteurs du butin qu'ils venaient de faire, nous fûmes obligés de laisser passer. Nous avions déjà fait quelques-unes de ces promenades sans résultat, quand il m'arriva de remarquer chez mes compagnons un certain je ne sais quoi qui me fit concevoir des inquiétudes. Il y avait dans leur manière, avec moi, quelque chose de contraint. Peut-être se promettait-il de me jouer quelque mauvais tour. Je pouvais lire dans leurs pensées, mais à tout hasard, je n'allais plus avec eux sans avoir sur moi des pistolets dont je m'étais muni à leur insu. Une nuit que nous devions sortir sur les 2 heures du matin, l'un d'eux, c'était Doré, se plaint tout à coup de coliques qui le font horriblement souffrir. Les douleurs deviennent de plus en plus aiguës. Il se tord, il se plie en deux. Il est évident que dans cet état, il ne pourra pas marcher. La partie est à conséquence remise au lendemain. Et puisqu'il n'y a rien à faire, je me rejette sur le flanc et je m'endors. Peu d'instants après, je m'éveille en sursaut. Je crois avoir entendu frapper à la porte. Des coups redoublés me prouvent que je ne me suis pas trompé. Que veut-on? Est-ce nous vraiment que l'on demande? C'est pas probable, puisque personne ne connaît notre retraite. Cependant, un de mes compagnons va se lever. Je lui fais signe de se tenir. Quoi? Il ne s'élance pas moins de son lit. Alors, à voix basse, je lui recommande de l'écouter, mais sans ouvrir. Il se place près de la porte. Bosnay, couché dans la chambre contiguë, ne bougeait pas. On continue de frapper et, par mesure de précaution, je me hâte de passer mon pantalon et ma veste. Doré, après en avoir fait autant, retourne se mettre aux aguets. Mais, tandis qu'il prête l'oreille, sa maîtresse me lance un coup d'œil tellement expressif que je n'ai pas de peine à l'interpréter. Je soulève mon matelas du côté des pieds et que vois-je? Un énorme paquet de fausses clés et une pince. Tout est éclairci. J'ai deviné le complot. Et afin de le déjouer, je m'empresse sans mot dire de placer les clés dans mon chapeau et la pince dans mon pantalon. Puis m'approchant de la porte, je vais écouter à mon tour. On cause tout bas et je ne puis rien comprendre de ce qui se dit. Cependant, je présume qu'une visite si matinale n'est pas sans but. J'assure Doré dans la seconde pièce et de là je le préviens que je vais tâcher de savoir ce que c'est. « Comme tu voudras, me dit-il. » On frappe de nouveau. Je demande « Qui est là ?»« Monsieur Gosset n'est pas ici ?» s'enquiert-on d'une voix doucereuse. « Ah, monsieur Gosset, c'est l'étage au-dessus, l'appareil porte. Oh, merci, excusez de nous avoir réveillés. On n'y a pas de mal. » On descend. J'ouvre sans faire de bruit, et en deux sauts, je suis aux latrines, j'y précipite d'abord la pince, je me prépare à y jeter les clés, mais on entre derrière moi, et je reconnais un inspecteur, nommé Swinkett, attaché au cabinet du juge d'instruction. Il me reconnaît également. « Oh, me dit-il, c'est après vous qu'on cherche. »« Après moi, pourquoi ?»« Eh, bon Dieu, pour rien, c'est M. Vigny, juge d'instruction, qui désire vous voir et vous parler. »« Eh bien, si ce n'est que cela, je vais remettre ma culotte et je suis à vous. »« Dépêchez-vous, que je prenne votre place et attendez-moi. » J'attends l'inspecteur et nous redescendons ensemble. La chambre est pleine de gendarmes et de mouchards. Monsieur Vigny est au milieu d'eux. Aussitôt, il me donne lecture d'un mandat d'amener décerné contre moi, ainsi que contre mes hôtes et leurs femmes, et ensuite, pour remplir le vœu d'un commission rogatoire, il ordonne la perquisition la plus exacte. Oh, il ne fut pas difficile de voir d'où le coup partait, surtout lorsque Spiquet, soulevant le matelas, et surpris sans doute de n'en rien trouver, regarda d'une certaine façon Gosset, qui avait l'air tout stupéfait. Son désappointement ne m'échappa pas. Je m'aperçus qu'il était passablement contrarié. Quant à moi, pleinement rassuré, « Monsieur, dis-je au magistrat, je vois avec peine que dans l'espoir de rendre intéressant, on vous a fait faire un pas de clerc. On vous a trompé, on a voulu vous tromper, Il n'y a rien ici de suspect. D'ailleurs, M. Gosselin ne souffrirait pas. N'est-ce pas, M. Gosselin, que vous ne souffririez pas? Répondez donc à M. le juge. Il ne pouvait faire autrement que de confirmer mon dire. Mais il ne parla que du bout des lèvres. Il ne fallait pas être sorcier pour pénétrer le fond de son âme. La perquisition terminée, on nous fit monter dans deux fiacres après nous avoir garrottés. Et l'on nous conduisit au palais où nous fûmes déposés dans une petite salle appelée la souricière. Enfermé avec Gosset et Doré, je me gardais bien d'exprimer les soupçons que je formais sur leur compte. À midi, on nous interroge et vers le soir, on nous transfère, mes deux compagnons à la force et moi à Sainte-Pélagie. Je ne sais comment cela se fit, mais le trousseau de clés que je gardais dans mon chapeau resta imperceptible pour tous ces observateurs qui d'ordinaire encombrent le guichet d'une prison. Bien que l'on n'eût pas négligé de me fouiller, on ne le trouva pas. Et je n'en fus pas fâché. J'écrivis sur le champ M. Henri pour lui annoncer la trame qu'on avait ourdie contre moi, et je n'eus pas de peine à le convaincre que j'étais innocent. Et deux jours après, je recouvrais ma liberté. Je reparus à la préfecture avec les clés si heureusement dérobées à toutes les investigations. Je m'estimais heureux d'avoir échappé au péril, car je m'étais trouvé à deux doigts de ma perte. Sans la maîtresse de Doré et sans ma présence d'esprit, nul doute que je fusse retombé sous la juridiction des Argousins. Porteur d'instruments à voleurs, j'étais frappé par une nouvelle condamnation dont ma qualité d'évadé suppléait les motifs. Enfin, j'étais ramené au bagne. M. Henri me réprimanda au sujet d'une imprudence qui avait failli m'être si fatale. « Voyez, me dit-il, vous en seriez, si Gosset et Doré avaient conduit cette intrigue avec un peu plus d'adresse. Vidocq, ajouta-t-il, prenez garde à vous. Ne poussez pas trop loin le dévouement. Surtout ne vous mettez pas à la discrétion des voleurs. Vous avez beaucoup d'ennemis. N'entreprenez rien sans y avoir mûrement réfléchi. Avant de risquer une démarche, l'avenir, venez me consulter. » Je profitais de la vie et je m'en trouvais bien. Gosselin et Doré ne restèrent pas longtemps à la force. À leur sortie, j'allais les voir, mais je ne laissais pas apercevoir que je soupçonnais leur perfidie. Toutefois, pressé de prendre ma revanche pour une partie que je n'avais pas perdue, je leur décochai un mouton. Je ne tardais pas à comprendre, qu'ils avaient commis un vol dont toutes les preuves étaient faciles à produire. Arrêtés et condamnés, ils eurent pendant 4 ans le temps de penser à moi. Et quand la sentence qui fixait leur sort eut été rendue, je ne manquais pas de leur faire une visite. Lorsque je leur racontais comment j'avais connu et déjoué leur projet, ils pleurèrent de rage. Gosselin, ramené dans ses prisons d'Auxerre, d'où il s'était évadé, imagina un moyen de vengeance qui ne lui réussit pas. Feignant de repentir, il fit appeler un prêtre, et sous prétexte de lui faire une confession générale, il lui avoua un bon nombre de vols dans lesquels il eut soin de m'impliquer. Le confesseur, à qui ma prétendue participation n'avait pas été confiée sous le sceau du secret, adressa à la préfecture une note dans laquelle j'étais violemment inculpé Mais les révélations de Gosnell n'étaient pas le résultat qui s'en était promis. Ce fut l'arbitraire que l'on déployait contre les voleurs qui propagea parmi eux la manie de s'entre-dénoncer et les poussa, s'il est permis de m'exprimer ainsi, au comble de la démoralisation. Auparavant, ils formaient au sein de la société une société à part, qui ne connaissait ni traître ni transfuge. Mais lorsqu'on se mit à les proscrire en masse, au lieu de serrer leur rang, dans leur effroi, ils jetèrent un cri d'alarme qui légitimait tout expédient de salut au détriment même de l'ancienne loyauté. Et une fois que le lien qui unissait entre eux les membres de la grande famille de Larron eut été rompu, chacun d'eux, dans son intérêt propre, privé, ne se vit plus scrupule de livrer ses camarades. Aux approches des crises, qui coïncidaient toutes avec des époques marquantes, telles que le premier jour de l'an, la fête de l'empereur ou autre solennité, il fallait voir comme les dénonciations pleuvaient à la deuxième division. Pour échapper à ce que les agents appelaient le bel ordre, c'est-à-dire l'ordre d'arrêter tous les individus réputés voleurs, c'était à qui fournirait la parole police plus d'indications utiles. Oh, ils ne manquèrent pas. Suspects, qui s'empressaient de jouir des bons serviteurs en leur lançant le bouchard sur ceux d'entre eux, leurs camarades dont le domicile n'était pas connu. Aussi ne fallait-il pas longtemps pour remplir les prisons. On pense bien que dans ces battues générales, il est impossible qu'il ne se commît pas une multitude d'abus. Les plus révoltantes injustices restaient souvent sans réparation. De malheureux ouvriers qui, à l'expiration d'une simple peine correctionnelle, s'étaient remis au travail et s'efforçaient, par leur bonne conduite, d'effacer le souvenir de leur temps passé, se trouvaient enveloppés, dans la même mesure et confondus, avec des voleurs de profession. Il n'y avait pas même pour eux possibilité de réclamer. Entassés au dépôt, le lendemain, ils étaient amenés devant le terrible Linodin que leur faisait subir un interrogatoire. Quel interrogatoire, grand Dieu! Ton nom, ta demeure, tu as subi un jugement? Oui, monsieur, mais depuis je travaille et... Oh, c'est assez, un autre! Mais monsieur, là où viens, je vous... Paix à un autre, c'est entendu, j'espère. Celui à qui l'on imposait silence allait alléguer en sa faveur les meilleures raisons. Libéré depuis plusieurs années, il pouvait produire des preuves de son honnêteté, faire attester par 1000 témoins qu'il avait contracté des habitudes laborieuses, enfin qu'il était irréprochable sur tous les rapports. Mais M. Linodin n'avait pas le loisir de l'entendre. « On n'en finirait pas, disait-il, si l'on voulait s'occuper de pareilles babioles. » Quelquefois, dans une matinée, cet interrogateur brutal expédiait de la sorte jusqu'à 100 personnes, hommes ou femmes, qui dépêchaient les uns à Bicêtre, les autres à Saint-Lazare. Il était sans pitié. À ses yeux, rien ne pouvait racheter un instant d'égarement. Combien de pauvres diables, sortis des voies du crime, y ont été rejetés que par lui. Plusieurs des victimes de cette implacable sévérité se repentaient d'un amendement dont on ne leur tenait pas compte et juraient, dans leur exaspération, de devenir des brigands fêlés. Fiefé. Et que nous a servi d'être honnêtes, disait-il quelquefois à ces informés, ces pauvres infortunés. Vous voyez comment on nous traite. Pourtant, on voudrait être coquin toute sa vie. Pourquoi faire des lois si on ne les observe pas? À quoi bon nous avoir condamnés à temps si l'on n'admet pas que nous y passions nous corriger? C'était plutôt fait de nous juger à perpétuité ou à mort, puisqu'une fois que nous sommes dans le bon chemin, on nous empêche d'y rester. Et j'ai entendu une multitude de récriminations de ce genre. Presque toujours elles étaient fondées. Voilà 4 ans que je suis sorti de Sainte-Pélagie, disait devant moi un de ces détenus. Depuis ma libération, j'ai toujours travaillé dans la même boutique, ce qui prouve que je ne dérangeais pas et qu'on était content de moi. Eh bien, on m'a envoyé à Bicêtre sans que j'aie commis de délit, et seulement parce que j'ai subi autrefois 2 années de prison. Cette atroce tyrannie était sans doute ignorée du préfet, je me plais à le dire. Cependant, c'était en son nom qu'elle s'exerçait. Avoués ou secrets, les agents étaient alors des êtres bien redoutables, car leur rapport était sans reçu comme article de foi. Arrêtait-il un homme du peuple s'il le signalait comme voleur, dangereux et incorrigible, et c'était toujours la même formule. Tout était dit de l'homme, et l'homme était écroué, sans autre forme de procès. C'était l'âge d'or des mouchards, puisque chacun de ces attentats à la liberté individuelle leur valait une prime. À la vérité, cette prime n'était pas forte. Ils avaient un tout petit écu par capture. Mais pour un petit écu, que ne ferait pas un mouchard s'il n'y a point de danger à courir? Pour surplus, si la somme était modique, il visait au nombre, afin qu'elle fût souvent répétée. Et d'un autre côté, les voleurs, qui désiraient acheter leur liberté par des services, dénonçaient également, à tort et à travers, tous ceux qu'ils avaient connus, qu'ils fussent corrigés ou non. Et à ce prix, ils obtenaient de rester à Paris. Mais bientôt, les détenus, usant de représailles, ils allaient forcément leur tenir compagnie. On ne se fait pas d'idée du nombre d'individus que les détentions administratives ont précipité dans des récidives qu'ils auraient évitées si l'on eût renoncé plutôt à cet abominable système de persécution. Si on les eût laissés tranquilles, jamais ils ne se fussent compromis. Mais quelle que fût une résolution, on les mettait dans la nécessité de redevenir des voleurs. Quelques libérés, c'était une exception, obtenaient l'expiation de leur peine de n'être pas renvoyés en suspicion à Bicêtre. Mais alors même, on ne leur donnait aucune espèce de papier, telle sorte qu'il leur était impossible de se procurer de l'ouvrage. Ceux-là avaient la ressource de mourir de faim, mais on ne se résigne pas volontiers à un si cruel supplice. Ils ne mouraient pas et volaient. Le plus ordinairement, ils dénonçaient et volaient à la fois. Cette rage de mouchard, disent, était d'incroyables progrès. Les faits pour le prouver sont tellement abondants que je me suis embarrassé que du nombre et que du choix. Souvent, dans la disette des larcins me signalés, les dénonciations ne révélaient, en les imputant à d'autres, des crimes qui avaient motivé leur propre condamnation. Je vais citer des exemples. Une nommée Bailly, ancienne voleuse, enfermée à Saint-Lazare, me fait appeler pour me donner des renseignements. Je me rends auprès d'elle, Et elle me déclare que si je m'engage à la faire remettre en liberté, elle m'indiquera les auteurs de 5 vols, dont 2 avec effraction, et j'accepte le marché. Et les détails qu'elle me communique sont si précis que déjà, je crois n'avoir plus qu'à tenir ma promesse. Cependant, en réfléchissant aux diverses circonstances qu'elle m'a rapportées, je m'étonne qu'elle a pu en être instruite aussi parfaitement. Elle m'avait désigné les personnes volées. L'une d'elles était un sieur Frédéric, rue Saint-Honoré, passage Virginie. Je vais d'abord chez lui et dans le cours des informations que je prends, j'acquiers la certitude que la révélatrice est seule l'auteur du vol commis au préjudice de ce traiteur. Je poursuis mon enquête et partout, c'est son signalement que l'on me donne. Il ne s'agissait plus que de procéder à la vérification. Les plaignants sont introduits à Saint-Lazare et sans être vus de la fille Billy, que je leur montre au milieu de ses compagnes, ils reconnaissent parfaitement une confrontation illégale s'ensuivit et la belle fille Billy, accablée par l'évidence, fait des aveux qui lui valurent 8 ans de réclusion. Elle eut tout le temps de dire son mea culpa. Cette femme avait accusé de ses vols 2 de ses camarades, contre lesquels une moralité suspecte aurait pu faire élever des précautions. Une autre voleuse, surnommée la belle Bontier Bouchère, ayant fait des révélations de même nature que celle de la fille Bailly, ne fut pas plus heureuse qu'elle. Un nommé Ouas, dont le père devait plus tard être impliqué dans le procès de l'épicier Poulain, me signale 3 individus comme auteurs d'un vol avec effraction commis la veille rue Saint-Germain-l'Auxerrois, chez un débitant de tabac. Je me transporte sur les lieux, je m'informe, et bientôt j'acquiers la preuve incontestable que Ouas, récemment libéré, n'est pas étranger au crime. Le dissimule, mais en me servant de lui, je m'y prends si bien qu'il est arrêté comme complice et condamné à la réclusion. Cette mésaventure aurait dû le corriger, de la manie le dénoncer. Mais voulant à tout prix être mouchard, il fit au procureur du roi Versailles diverses déclarations mensongères qui lui valurent 2 ou 3 ans de prison. J'ai déjà dit que les voleurs ne gardent pas rancune. À peine sorti, Ouas accourt chez moi. C'est encore un vol dont il vient me donner avis. Je fais vérifier, d'après son indication, le vol était réel. Mais le croirait-on ? Le voleur était Ouas. Atteint et convaincu, il fut condamné de nouveau. Pendant sa détention, ce misérable, ayant appris l'arrestation de son père, se hâta de m'adresser des révélations à l'appui de l'accusation dirigée contre ce dernier. Mon devoir était de les transmettre à l'autorité. Je le fis, mais ce ne fut pas sans éprouver toute l'indignation que devait exciter la conduite de ce fils dénaturé. Dans mon emploi, c'eût été me priver d'un moyen de police des plus efficaces que de rompre en visière avec ces voleurs. Aussi, ne me suis jamais entièrement isolé d'eux. Tout en leur faisant la chasse, je paraissais encore prendre intérêt à leur sort. Étais-je chien ou loup ? Tel était le doute qu'il me convenait de laisser dans leur esprit. Et ce doute, si favorable à la calomnie, toutes les fois que l'on m'en a imputé en connivence qui dans la réalité n'existait pas, n'a jamais bien été éclairci pour eux. Voilà pourquoi les voleurs se sont rendus en quelque sorte les artisans de l'espèce de renommée que je me suis acquise. Ils imaginaient que j'étais ouvertement leur ennemi, mais qu'intérieurement, je ne demandais pas mieux que de les protéger. Et quelquefois, ils allaient jusqu'à me plaindre d'être obligés de me faire un métier comme celui que je faisais. Pourtant, ils m'aidaient eux-mêmes à le faire. Parmi les voleurs de profession, il en était bien peu pour qui ne regardait comme le bonheur d'être consulté par la police pour un renseignement ou employé pour un coup de main. Presque tous se seraient mis en quatre pour me donner des preuves de zèle, dans la persuasion qu'elle leur vaudrait, sinon une immunité entière, du moins quelques ménagements. Ce qui redoutait le plus son action étaient presque toujours les plus disposés à le servir. Je me rappelle à ce sujet l'aventure d'un forçat libéré, le nommé Boucher, dit Cadet Pognon. Il y avait plus de 3 semaines que j'étais à sa recherche quand le hasard me le fit rencontrer dans un cabaret de la rue Saint-Antoine à l'enseigne du Bradford. J'ai été seul, il était en de nombreuses compagnies. Tenter de le saisir ex abrupto, c'eût été m'être exposé à le manquer, car il pouvait se faire qu'il voulût se défendre et qu'il fût soutenu. Boucher avait été agent de police. Je l'avais connu dans cet emploi et même nous étions assez bien ensemble. Alors il me vient dans l'idée de l'aborder comme ami et lui monter un coup à ma manière. J'entre au cabaret et, à l'endroit de la table où il est assis, je lui tends la main en lui disant « Bonjour mon ami Cadet !»« Oh tiens, voilà l'ami Jules! Veux-tu te rafraîchir? Allez, demande un verre ou prends le mien. »« Oh le tien est bon, tu n'as pas la gale aux dents. » Je bois. « Ah, je voudrais bien te dire un mot en particulier. »« Avec plaisir, mon fils, je suis tout à toi. » Il se lève et je le prends sous le bras. « Tu te souviens, lui dis-je, du petit matelot qui était de Jachène ?»« Oui, 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 un petit gris court qui était du deuxième... corridor, c'est pas... Oui, c'est ça. Tout juste. Du moins, je le pense. Le reconnaîtrais-tu? Oh, ce serait mon père que je ne le connaîtrais pas mieux. Il me semble encore le voir sur le banc 13. Faire des fadabas, des bourrelets pour garantir les jambes, pour les fagots, pour les forçats. Je viens d'arrêter un particulier, j'ai une idée que c'est lui, mais n'en suis pas sûr. En attendant, je l'ai mis au poste de Bragrag et comme j'en sortais, je t'ai vu entrer ici. Parbleu, me suis-je dit, ça, mais ça se rencontre bien, v'là Cadet, il pourra me dire si je me suis trompé. Je suis tout prêt, mon garçon, si ça peut t'obliger. Mais avant de partir, nous allons boire encore un coup. S'adressant à ses camarades. Mes amis, ne vous impatientez pas, c'est l'affaire d'une minute et je suis de retour. Nous partons. Et arrivé à la porte du poste, la politesse exige que je le laisse entrer le premier. Je lui fais les honneurs. Il va jusqu'au fond de la salle, examine partout autour de lui et cherche en vain l'individu dont je lui ai parlé. « Eh, me dit-il, tout qu'il est ce fagot, que je le remouche, que je le reconsidère. » J'étais alors près de la porte, et j'aperçois incrusté dans le mur un débris de miroir tel qu'il s'en trouve dans la plupart du temps de garde, pour la commodité des fashionables de la garnison. Alors j'appelle Boucher, lui montrant le débris réflecteur. « Tiens, lui dis-je, c'est par ici qu'il faut regarder. » Il regarde et, se tournant de mon côté, « Mais bon, ça, mais, tu blagues, je vois rien que Thomas et moi dans cette glace. Mais l'arrêter, où qu'il est l'arrêté ? Mais apprends qu'il n'y a personne ici d'arrêté que toi. Tiens, voilà le mandat qui te concerne. Oh, pour ça, c'est un vrai tour de gueusard. Mais tu ne sais donc pas que dans ce monde, c'est au plus malin tant que tu voudras. Ça ne portera pas bonheur de monter des coups comme ça de bons enfants. » Lorsque la voie, pour arriver à une découverte importante, était hérissée de difficultés, les voleuses étaient peut-être d'un plus grand secours que les voleurs. En général, les femmes ont des moyens de s'insinuer qui, dans les explorations de police, les rendent bien supérieures aux hommes. Alliant le tact à la finesse, elles sont en outre douées d'une persévérance qui les conduit toujours au but. Elles inspirent moins de défiance et peuvent s'introduire partout sans réveiller les soupçons. Elles ont en outre un talent tout particulier pour se lier avec les domestiques et les portières. Elles s'entendent fort bien à établir des rapports et à bavarder sans être indiscrètes. Communicatives en apparence, alors même qu'elles sont le plus sur la réserve, elles excellent à provoquer les confidences. Enfin, à la force près, elles ont au plus haut degré toutes les qualités qui constituent l'aptitude de la mouchardise. Et lorsqu'elles sont dévoilées, la police ne saurait savoir de meilleurs agents. Monsieur Henri, qui était un homme habile, les employa souvent dans les affaires les plus épineuses, et rarement il n'eut pas à se louer de leur intelligence. À l'exemple de ce chef, dans maintes occasions, j'ai eu recours au ministère des mouchardes, et presque toujours, j'ai été satisfait de leur service. Cependant, comme les mouchardes sont des êtres profondément pervertis, et plus perfides peut-être que les mouchards, avec elles, pour ne pas être trompé, j'avais besoin d'être constamment sur mes gardes. Le trait suivant montrera qu'il ne faut pas toujours croire aux ailes dont elles font parade. J'avais obtenu la liberté des deux voleuses en renom à la condition qu'elles serviraient fidèlement la police. Elles avaient antérieurement donné des preuves de leur savoir-faire, mais employées sans traitement et obligées de se livrer au vol pour subsister, elles s'étaient fait reprendre en flagrant délit. La peine qu'elles subissaient pour ces nouveaux méfaits fut celle dont j'abrégeais la durée. Sophie Lambert et la fille de Donnière, surnommée la belle Lise, furent dès lors en relation directe avec moi. Un matin, elles vinrent me dire qu'elles étaient certaines de procurer à la police l'arrestation du nommé Tomino, homme dangereux que l'on avait longtemps recherché. Elles venaient, assuraient-elles, de déjeuner avec lui, et il devait dans la soirée les rejoindre chez un marchand de vin de la rue Saint-Antoine. Dans toute autre circonstance, j'aurais pu être dupe de la supercherie de ces femmes. Mais Tomino avait été arrêté par moi la veille. Il était assez difficile qu'elles en eussent déjeuné avec lui. Je voulus savoir néanmoins jusqu'où elles pousseraient l'imposture, et je promis de les accompagner à leur rendez-vous. J'y allais en effet, mais comme on le pense bien, Tomino ne vint pas. Nous attendîmes jusqu'à 10 heures, Enfin, Sophie, jouant l'impatience, s'informa près du garçon de cave s'il n'était pas venu un monsieur les demander. « Ah, c'est celui avec qui vous avez déjeuné, » répondit le garçon. « Oui, il est venu un peu avant la brume. Il m'a chargé de vous dire qu'il ne pouvait pas se trouver avec vous ce soir, mais que ce serait pour demain. » Je ne doutais pas que le garçon ne fût un compère à qui on avait fait la leçon. Mais je feignis de ne point concevoir de soupçons et me résignai à voir combien de temps ces dames promèneraient. Pendant une semaine entière, elles me conduisirent tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Nous devions toujours y trouver Tomino, et jamais nous ne le rencontrions. Enfin, le 6 janvier, elles me jurent de l'amener. Je vais les attendre, mais elles reparaissent sans lui, et m'allèguent de si bonnes raisons qu'il m'est impossible de me fâcher. Je me montre au contraire très satisfait des démarches qu'elles ont faites, et pour leur témoigner combien je suis content d'elles, j'offre de les régaler d'un gâteau de broie. Elles acceptent, et nous allons ensemble nous installer au petit broc, rue de la Verrerie. Nous tirons la fève, la royauté échoua à Sophie, elle est heureuse comme une reine. On mange, on boit, on rit, et quand approche le moment de se séparer, on propose de mettre le comble à cette gaieté par quelques coups d'eau de vie. Mais de l'eau de vie de marchand de vin, fi donc, c'est bon tout au plus pour les forts de la halle. Je suis trop galant pour que ma reine s'enivre d'un breuvage indigne d'elle. Et à cette époque, j'étais établi distillateur près du Touriquet Saint-Jean. L'annonce que je vais aller chez moi chercher la fine goutte. À cette nouvelle, la compagnie seule, saute d'enthousiasme, on me recommande de revenir bien vite. Je pars et 2 minutes après, je reparais avec une demi-bouteille de cognac qui fut vidée en un clin d'œil. La chopine se trouvant à sec. « Ah ça, vous voyez, je suis un bon enfant, » dis-je à mes deux commères. Eh bien maintenant, il s'agit de me rendre un service. Dieu, Dieu, mon ami Jules, Dieu, s'écrie Sophie. Voyons, parle. Eh bien, voilà ce que c'est. Un de mes agents vient d'arrêter 2 voleuses. On présume qu'elles ont chez elles une grande quantité d'objets volés, mais pour faire la perquisition, il faudrait connaître le domicile. Et elle refuse de l'indiquer. Elles sont maintenant au poste du marché Saint-Jean. Si vous y alliez, vous tâcherez de leur arracher leur secret. Une heure ou deux vous suffiront pour les tirer les vers du nez. Ça vous sera bien aisé, vous qui êtes des malignes. « Sois tranquille, mon cher Jules, » me dit Sophie. « Nous nous acquitterons de la commission. Tu sais que l'on peut s'en rapporter à nous. Tu nous enverrais au bout du monde que nous irions pour te faire plaisir. Du moins, moi. »« Et moi donc ?» reprit la belle Lise. « Eh bien, en ce cas, vous allez porter un mot au chef du poste, afin qu'il vous reconnaisse. » J'écris un billet que je cachette. Je le remets et nous sortons ensemble à peu de distance du marché Saint-Jean. Nous nous séparons et, tandis que je reste en observation, la reine et sa compagne se dirigent vers le corps de garde. Sophie entre la première, elle présente le billet, le sergent le lit. « Oh, c'est bien, vous voici toutes deux. Caporal, Prenez avec vous 4 hommes et conduisez ces dames à la préfecture. » Ce commandement était fait en vertu d'un ordre que j'avais remis au sergent pendant ma sortie pour aller chercher la goutte. Il était ainsi conçu. Monsieur le chef du poste fera conduire sous sûre et bonne escorte aux préfectures de police les nommés Sophie Lambert et Lise Daumier, arrêtés par les ordres de monsieur le préfet. Ces dames durent alors faire de singulières réflexions. Sans doute qu'elles devinèrent que je m'étais laissé lasser d'être leur jouet. Quoi qu'il en soit, j'allais les voir le lendemain au dépôt et je leur demandais comment elles avaient trouvé le tour. Pas mal, répondit Sophie, pas mal. Nous l'avons pas volé. Puis s'adressant à Lise, aussi, c'est ta faute à toi. Pourquoi vas-tu chercher un homme qui est enfoncé? Mais le savais-je? Ah, bah, si j'avais su, je te promets bien. Et puis que veux-tu? C'est un enfant, de fait, il n'y a plus qu'à le bercer. Oui, tout ça est bel et bien bon. Si encore on nous disait pour combien nous aurons serré à Saint-Lazare. Parle donc, Jules, sais-tu, toi? 6 mois au moins. Oh, ce n'est que ça, s'écrièrent-elles ensemble. Mais 6 mois, c'est rien du tout, continua Sophie. C'est bientôt passé, un coup qu'on est là. Enfin, mon doux bon béni Jésus, à la volonté du préfet. Elles en eurent pour 1 mois de moins que je ne leur avais annoncé. Dès qu'elles furent libres, elles vinrent me trouver pour me donner de nouveaux renseignements. Cette fois, ils étaient exacts. Une particularité assez remarquable, c'est que les voleuses sont plus certainement corrigibles que les voleurs. Sophie Lambert ne put jamais prendre sur elle de renoncer à ses péchés d'habitude. Dès l'âge de 10 ans, elle avait débuté dans la carrière du vol. Elle n'en avait pas 25, que plus d'un tiers de sa vie s'était écoulé dans les prisons. Peu de temps après mon entrée à la police, je la fis arrêter et condamner à 2 années de détention. C'était principalement dans les hôtels garnis qu'elle exerçait sa coupable industrie. On n'était pas plus habile à déjouer la vigilance des portiers, ni plus fécond en expédients pour échapper à leurs questions. Une fois introduite, en faisant une halte sur chaque palier pour donner son coup d'œil, apercevait-elle une clé sur quelque porte? Elle la faisait tourner sans bruit dans la serrure, se glissait dans la chambre, et si la personne qui l'occupait était endormie, quelque léger qu'elle eût le sommeil, Sophie avait la main encore plus légère, et en moins de rien, montre, bijoux, argent, tout passait dans sa gypsière. C'était le nom qu'elle donnait à sa poche secrète qui couvrait son tablier. Le locataire que Sophie visitait était-il éveillé? Elle en était quitte pour faire des excuses en demeurant qu'elle s'était trompée. S'éveillait-il pendant qu'elle opérait? Sans se déconcerter, elle courait à son lit et le pressant dans ses bras. « Oh, pauvre petit ami, disait-elle, viens donc que je te baise. Ah, monsieur, je vous demande bien pardon. Ah, commencez par ici, numéro 17. Ah, je croyais être chez mon amant. » Un matin, un employé qu'elle était en train de dévaliser, ayant tout à coup ouvert les yeux, l'aperçoit auprès de sa commode. Fait un moment de surprise, et aussitôt Sophie de jouer sa scène. Mais l'employé est entreprenant. Il veut profiter de la prétendue méprise. Si Sophie résiste, un son d'argent produit des agitations de lutte peut trahir le but de sa visite. Mais si elle cède, le péril est encore plus grand. Que faire ? Pour tout autre, la conjoncture serait des plus embarrassantes. Sophie n'est plus cruelle, mais à l'aide d'un mensonge, elle tourne la difficulté et l'employé, satisfait, lui permet d'effectuer sa retraite. Il le perdit à ce jeu que sa bourse, sa montre et six couverts. Cette créature était une intrépide. Deux fois, elle donna tête baissée dans mes filets. Mais après sa libération, en vain essayai-je de la tirer dans un piège. Oh, il n'y avait pas de surveillance à laquelle elle ne réussit à se soustraire, tant elle était sur ses gardes. Cependant, ce que je n'attendais pas de mes efforts pour la prendre en flagrant délit, je le dus à une circonstance tout à fait fortuite. Sorti de chez moi à petite pointe du jour, je traversais la place du Châtelet lorsque je me rends compte face à face avec Sophie. Elle m'aborde avec aisance. « Bonjour Jules, où vas-tu donc si matin ? Oh, je gâche que tu vas enfoncer quelque ami. » Oui, cela se pourrait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas toi. Mais où vas-tu toi-même ? Oh, je pars pour Corbeil, où je vais voir ma sœur, qui doit me placer dans une maison. Je suis las de manger du collège, de la prison. Je regrette, je m'amende. Tu veux boire ta goutte ? Volontiers. C'est toi qui régales. Poison chez le prêtre à 6 sols. Allons, je te laisse faire, mais dépêchons-nous. Que je ne manque pas la diligence, tu m'y accompagnerais, n'est-ce pas ? C'est dans la rue Dauphine. Ah, impossible, j'ai affaire à la chapelle. Je suis déjà en retard. Tout ce que je puis, c'est de prendre un petit verre sur le pouce. Nous entrons chez le prêtre, en buvant, nous échangeons encore 2 ou 3 paroles et je lui dis adieu. Adieu, Jules, bonne réussite. Et tandis que Sophie s'éloigne, je détourne la rue de la Rasserie et cours me cacher au coin de la salle planche murée. De là, je la vois filer sur le pont au change. Elle marche à grands pas et regarde à chaque instant derrière elle. Il est certain qu'elle craint d'être suivie. J'en conclus qu'il serait à propos de la suivre. Je gagne donc le pont Notre-Dame et le franchissant avec rapidité, j'arrive aussi assez tôt sur le quai pour ne pas la perdre sa trace. Et parvenue dans la rue Dauphine, elle entre effectivement au bureau des voitures de Corbeil, mais persuadée que son départ n'est qu'une fable imaginée pour me tromper, sur le but de son apparition matinale, je me tapis dans une allée d'où je puis épier sa sortie. Et tandis que je suis ainsi en vedette, un fiacre vient à passer. Je m'y installe et je promets au cocher un bon pourboire s'il suit adroitement une femme que je lui désignerai. Pour le moment, nous devons stationner. Bientôt, la diligence part. Sophie n'y est pas, je l'aurais parié. Mais quelques minutes après, elle se présente à la porte cochère, examine avec soin de tous côtés, et prenant son essor, elle file la rue Christine. Elle entre successivement dans plusieurs maisons garnies, mais à son allure, il est aisé de reconnaître que l'occasion ne s'est pas offerte. D'ailleurs, elle persiste à explorer le même quartier. J'en tire la conséquence naturelle qu'elle a manœuvré sans succès. Et comme je suis persuadé que sa tournée n'est pas finie, Je me garde bien de l'interrompre. Enfin, rue de la Harpe, elle entre dans l'allée d'une fruitière, et un instant après, elle reparaît, portant au bras un énorme panier de blanchisseuse. Elle en avait sa charge. Toutefois, elle ne laissait pas d'aller très vite. Elle eut bientôt fut dans la rue des Mazarins, Mathurin-Saint-Jacques, puis dans celle des Maçons-Sorbonne. Malheureusement pour Sophie, il est un passage qui communique de la rue de la Harpe à la rue des Maçons. Et c'est là qu'après avoir mis pied à terre, je cours m'embusquer, et quand elle arrive à la hauteur de l'issue, je débouche et nous nous retrouvons nez à nez. À mon aspect, elle a changé de couleur. Elle veut parler, mais son trouble est grand, si grand qu'elle ne peut tenir à bout de l'exprimer. Cependant, elle se remet peu à peu, et feignant d'être hors d'elle-même, « Tu vois, me dit-elle, une femme en colère, ma blanchisseuse qui devait m'apporter mon linge à la diligence, m'a manqué de parole, je viens de la lui retirer, je vais la faire repasser chez une de mes amies, ça m'a empêché de partir. Oui, c'est comme moi, en allant à la chapelle, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que mon homme était dans ce quartier. C'est là que s'y trouve. Mais tant mieux. Si tu veux m'attendre, je vais à deux pas porter mon panier et nous mangerons une côtelette. Oh, c'est pas la peine, je... Et mais qu'est-ce que j'entends ? Sophie et moi, nous restons stupéfaits. Des cris aigus s'échappent du panier. Je lève le linge, qui le recouvre et je vois un enfant de 2 à 3 mois dont les vagissements avaient déchiré le tympan d'un mort. « Eh bien, dis-je à Sophie, le poupon est sans doute à toi. Pourrais-tu me dire de quel sexe il est ? Allons, me voilà encore enfoncé. Ah, je me souviendrai de celle-là. Et si jamais on me demande le sujet, pourquoi je pourrais répondre ? Rien, presque rien, une affaire d'enfant. Une autre fois, quand je volerai du linge, j'y regarderai. Et ce parapluie en est-il ? Eh mon Dieu, oui, comme tu vois, j'avais pourtant de quoi me mettre à couvert. Ça n'a pas empêché. Quand la chance y est, on l'a beau faire. Je conduisis Sophie chez M. Defresne, commissaire de police, dont le bureau était dans le voisinage. Le parapluie fut gardé comme pièce à conviction. Quant à l'enfant, qu'elle avait enlevé à son insu, on le rendit immédiatement à sa mère. La voleuse en eut pour 5 ans de prison. C'était, je crois, la 5e ou 6e condamnation qu'elle subissait. Depuis, elle est encore fait reprendre de justice. Et je ne sais pas, surpris, qu'elle fût toujours à Saint-Lazare. Sophie ne voyait rien que de très naturel au métier qu'elle faisait. Et la pression, lorsqu'elle ne pouvait l'envier, l'éviter, était pour elle un accident, tout comme un autre. La prison ne lui faisait pas peur, loin de là. Elle était en quelque sorte sa sphère. Sophie avait contracté ses goûts plus que bizarres, que ne justifie par exemple de l'antique Sappho, et sous les verrous, les occasions de s'abandonner en de honteuses dépravations étaient plus fréquentes. Ce n'était pas qu'on loua sans motif qu'elle prisait si peu la liberté. Était-elle arrêtée ? L'événement lui causait bien quelque peine, mais ce n'était qu'une impression passagère, et elle se consolait bientôt par la perspective des mœurs qui lui plaisaient. Oh, c'était une bien étrange caractère que celui de cette femme. que l'on en juge. Une nommée Gillion, avec qui elle vivait dans une coupable intimité, est prise en commettant un vol. Sophie, qui l'assistait, parvient à s'échapper. Elle n'a plus rien à craindre, mais ne pouvant supporter d'être séparée de son amie, elle se fait dénoncer et n'est contente qu'au moment où on lui lit l'arrêt qui va encore la retirer pour 2 ans. La plupart des créatures de cette espèce se font un jeu de la prison. J'en ai vu plusieurs traduites pour un délit qu'elles avaient commis seules, et celle-ci, quoique innocente, se fait un mérite de se résigner à la condamnation.